Bienvenue dans Adolescence, le podcast qui nous apprend ce que l'on n'a pas appris à l'école. Je suis Louise Aubéry et j'ai souhaité demander aux meilleurs experts de m'aider à affronter la vie d'adulte. Dans cet épisode, j'accueille le docteur en neurosciences Albert Moukébert qui m'aide à répondre à l'épineuse question « Peut-on être en retard sur sa vie ?» Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous taguer dans vos posts et dans vos stories @franceinter et @louiseaubéry. Et je vous souhaite une très bonne écoute.
Je me suis toujours demandé comment je serais une fois adulte.
Je veux parler à un adulte!
Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants.
Sois jeune et tais-toi.
Être un adulte, définition.
Rentre chez toi et grandis.
Pour moi, adulte, ça veut dire responsable de ses actes.
Je dirais de grandir.
Chocolat ou fruits? Crème brûlée ou tiramisu? Supplément caramel ou supplément chantilly? Le serveur arrive, il est temps de passer commande. Et paniqué, tu demandes à tes amis ce qu'ils prennent. Et tu finis par prendre pareil. À peine le serveur est-il parti que tu regrettes déjà. T'aurais dû prendre la tarte à thym, c'est une valeur sûre. Mais c'est trop tard, la décision est prise, et tu dois désormais vivre avec le poids douloureux de l'ignorance de ce qui aurait pu être. Ce phénomène, propre aux restaurants, mais aussi aux séries, en streaming, aux destinations de vacances, ou encore aux choix de cadeaux d'anniversaire, m'était connu sous le nom de FOMO, qui est l'acronyme de Fear of Missing Out, la peur de passer à côté de quelque chose. Mais en vérité, je pense que ce dont je suis victime aujourd'hui, c'est le FOBO, Fear of a Better Option, donc la peur de pouvoir avoir mieux, mais ne pas le savoir. Ça s'est même immiscé jusque dans mes relations amoureuses. Comment savoir si je devrais laisser une chance à Bob, qui certes a un tatouage tribal sur le pectoral droit, mais qui a l'air très drôle, ou plutôt à Marc, qui parle népalais, finlandais et turc, mais qui semble incapable de vivre dans le même pays plus de 2 mois. Et même si je choisissais l'un des deux, comment dépasser l'idée que je rate peut-être quelque chose d'encore mieux avec quelqu'un de formidable? Oui, je suis totalement victime d'une indécision chronique qui semble se renforcer au fur et à mesure que les choix se multiplient. Pourquoi le privilège d'avoir le choix peut parfois devenir une prison où l'on s'est nous-mêmes enfermés? Pourquoi avons-nous si peur de choisir au point qu'on peut en venir à déléguer la responsabilité à une pièce que l'on tire à pile ou face? Choisir, c'est renoncer. C'est le discours avec lequel on grandit, mais récemment, l'une d'entre vous m'a dit « choisir, c'est s'affirmer ». Je vais donc essayer d'appliquer ce mantra du mieux que je peux, en espérant que personne ne me jugera de choisir de rentrer chez moi à 21h le samedi soir pour regarder un K-drama. Bonjour Albert.
Bonjour Louise.
Bienvenue, je suis ravie de te recevoir sur Adolescence, parce que je ne me voyais pas faire un sujet sur ce passage de l'âge ado à l'âge adulte sans parler finalement de l'évolution de notre cerveau. Et comme tu es docteur en neurosciences, ça tombe bien, je pense que tu vas pouvoir nous éclairer. Donc, ce que je me demandais d'abord, c'est est-ce que scientifiquement, on peut réussir à caractériser ce qu'est un cerveau d'adulte?
On peut réussir à peu près à caractériser ce qu'est un cerveau d'adulte. Il y a une sorte de phase de progression et de développement du cerveau qui est assez fulgurante à la naissance, qui se ralentit à un moment, puis qui reprend. Et on voit une nette diminution, on va dire, entre l'âge de 25 et 30 ans. Mais ça ne veut pas dire que le cerveau arrête de se développer ou qu'on ne peut plus rien apprendre et tout ça. Mais il y a une sorte de ralentissement qu'on pourrait décider que c'est l'âge adulte. Mais en fait, quand on parle d'adulte, c'est aussi une sorte de construction selon les sociétés. Et même quand on parle d'enfant. Pendant longtemps, les enfants, on s'en foutait un peu. Personne ne prêtait vraiment d'attention aux enfants. Et pendant longtemps, l'âge adulte était beaucoup plus tôt, c'est-à-dire à 12-13 ans, on est en train de bosser. Donc ça dépend, est-ce qu'on parle de l'âge adulte dans le sens biologique ou de l'âge adulte dans le sens social, de comment est-ce qu'on se définit? On va dire aujourd'hui à quelqu'un, bah, t'as 22 ans, t'es un gamin. Ce serait complètement absurde de dire ça il y a 200 ans.
Mais est-ce que du coup, en termes neurobiologiques, il y a le développement de certains, je sais pas, chemins neuronaux ou caractéristiques qui nous permettent de dire ça c'est un cerveau adulte, ça c'est un cerveau enfant.
Oui, oui, il y a des sortes de projections, il y a une sorte de réorganisation neuronale, pour faire simple, c'est pas vraiment comme ça, mais pour faire simple, qui a lieu à l'adolescence. Et on peut dire, ok, là, ça c'est fini. Après, je ne peux pas prendre une IRM de quelqu'un et donner son âge, mais il y a des volumes, il y a des masses volumineuses, etc. C'est la même chose que pour le reste du corps. Au final, le cerveau, c'est un organe comme un autre. De la même manière qu'à un moment, nos os ne sont plus en train de grandir, qu'on n'a plus de nouvelles dents qui sortent, que je ne vais plus pousser. C'est la même chose pour le cerveau.
Ok. Et c'est le même rythme ?
C'est assez parallèle, les rythmes. Ouais. Peut-être que la croissance s'arrête avant la fin de la maturation du cerveau, on va dire.
Mm.
Mais la fourchette serait entre 17 et 27 ans, on va dire.
Ok. Je pense qu'il y a un sujet, finalement, le thème de cet épisode, c'est peut-être en retard sur sa vie, qui est extrêmement lié à la peur de faire des choix ou de prendre la mauvaise décision. Et c'est vraiment une question que moi-même je me pose. Est-ce qu'il y a des bonnes ou mauvaises décisions ? Et si ce n'est pas le cas, comment est-ce qu'on peut se détacher de l'idée que ça existe ?
Oui, je pense qu'avant d'arriver au choix, il y a une problématique qui est très importante pour notre fonctionnement, qui est la problématique de l'incertitude. C'est-à-dire, le problème avec les choix, c'est pas devoir choisir, c'est ne pas savoir comment est-ce que ce choix va se projeter dans le futur. Si je pouvais mettre devant toi tes différents choix et te dire, si tu choisis ça, je sais à 100% que c'est ce qui va se passer, si tu choisis ça, c'est ce qui va se passer, ce qui va se passer, il y aurait encore parfois des dilemmes, mais les choix seraient beaucoup plus faciles. Le problème, c'est vraiment l'incertitude. Et cette incertitude, elle nous traverse sur plein de sujets. Ça peut être sur des sujets philosophiques, existentiels, comme qu'est-ce qui se passe après la mort. On est incertain, donc ça nous fait peur. À des sujets beaucoup plus du quotidien, comme un peu la question du fondant au chocolat ou du mec tatoué. L'incertitude est vraiment un modulateur très important de notre fonctionnement cognitif. Notre cerveau a besoin de faire ce qu'on appelle une stabilisation de l'ambiguïté, une sorte de réduction de l'incertitude pour pouvoir savoir quoi agir. Parce que faut tout le temps se rappeler que la question centrale de notre fonctionnement, c'est qu'est-ce que je dois faire. Mon cerveau est un organe prédictif dont une des fonctions principales, c'est de savoir quoi faire. J'ai un corps, il faut que je me déplace. Une fois que la question de l'incertitude est réglée, la question des choix devient plus facile. Ça reste compliqué, parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu, qu'on va pouvoir peut-être développer. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a différents problèmes de choix. Il y a ce qu'on appelle les problèmes mentalisables et les problèmes non mentalisables. Je ne sais plus si on en avait parlé, je ne pense pas. Les problèmes mentalisables, c'est des problèmes que je peux résoudre dans ma tête avant de les faire. Par exemple, je ne sais pas, on veut rentrer, on est à la maison de la radio, on veut rentrer à chez Toy, on fait la pub pour le restaurant à la rue Montorgueil, voilà, très bonne nouille. Je peux mentaliser comment je veux rentrer. Je sais que je peux prendre le RERC ou je peux marcher un peu plus loin, à la ligne 9, arriver au Grand Boulevard et marcher à pied, arriver rue Montmartre, etc. C'est un problème qui est mentalisable. Et ça, notre cerveau le gère relativement bien. Mais il y a un autre set de problèmes qui sont les problèmes non mentalisables. C'est des problèmes que je ne peux pas résoudre dans ma tête parce qu'il faut faire et voir le retour du réel et décider comment ça va se passer. Je veux me mettre en couple, je ne peux pas mentaliser comment ça va se passer avec cette personne. Je veux changer de boulot, je peux avoir quelques indices. Et je pense que c'est plutôt ça qui fait qu'on coince cette rencontre entre une incertitude qui est intimement liée à ces problèmes non mentalisables. Ça, c'est un set de problèmes. Et puis un autre set de problèmes où c'est les choix un peu qu'on appelle cornéliens, les dilemmes. Le problème, par exemple, dans ton intro sur le fondant au chocolat ou la tarte tatin, ce n'est pas un problème non mentalisable. Tu as déjà mangé des tartes au chocolat, tu as déjà mangé des tartes tatin, tu as peut-être déjà été dans ce resto. C'est plus, tu ne sais pas...
Là, c'est où j'ai vraiment envie.
J'ai vraiment envie, etc. Et ça, c'est souvent lié au nombre de choix disponibles. Il y a quelque chose en psychologie qu'on appelle la paralysie du choix. C'est une expérience assez connue qui a été faite chez des glaciers. Ils ont ouvert deux glaciers et chez un glacier, il y avait genre 3 ou 4 parfums.
C'est pas les pots de confiture ?
Ça a été fait.
D'accord.
Un nombre incalculable de fois. Voilà. Et dans un autre magasin de glace ou de confiture, il y avait genre, je sais pas, 20 parfums. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que paradoxalement, le glacier qui avait moins de parfums, eh ben, ça se passait beaucoup mieux. Il vend plus, il a un roulement plus rapide, etc. Alors qu'on pourrait imaginer que plus de choix, c'est une bonne chose. On veut maximiser nos choix. On dit souvent, je ne sais pas si on est en train d'élever des enfants ou à nos potes, genre, laisse tes options ouvertes. Mais laisser tes options ouvertes, c'est encore plus de tension. Ça veut dire qu'il y a plein d'options que je ne vais pas pouvoir avoir, alors que je pourrais. Alors que chez le glacier qui a juste 3 parfums, je suis en train de louper 2 parfums. Ce n'est pas très, très grave si je prends un.
Oui, en fait, c'est le coût du renoncement qui est moins important.
Oui, il y a moins de choses auxquelles on est en train de renoncer. Il y a moins de portes qui sont en train de se fermer. S'il y a chocolat, vanille, fraise, j'ai juste renoncé à la vanille, à la fraise. C'est facile. Hein, c'est pas...
Mais qu'est-ce qui explique alors, déjà qu'on n'ait pas forcément conscience de ce biais-là, et qu'au contraire, on soit dans l'idée que plus il y a de choix, mieux c'est, et qu'on soit toujours à la recherche de plus. Par exemple, quand j'écrivais mon intro, je réfléchissais au menu imposé. C'est moi la phobie, quoi.
Ouais.
T'arrives, t'as une entrée, un plat, un dessert.
Mm.
Mais pourtant, si je suis le biais psychologique que tu me décris, je risque d'être moins frustrée ou même plus satisfaite que si j'avais une carte avec 48 choix par plat, quoi.
Oui, je pense en fait que les deux sont vrais. C'est-à-dire, d'un côté, plus de choix, c'est plus d'agentivité, c'est plus de marge de manœuvre, de degré, de liberté, etc. Mais c'est aussi plus de responsabilité. C'est plus de chance de se gourer. C'est plus de chance de mal faire. Alors que si c'est imposé...
C'est plus de notre faute.
Oui, ça me déleste. Je pense qu'avec différents choix, il y a une sorte de diffusion de la responsabilité qui est moins facile à faire, parce que je suis le responsable, j'avais tous ces choix, et ça tombe sur moi. Alors que si on me dit, bah, il n'y a que ça, je dis, bah, pourquoi vous me blâmez ?
Je dois, ouais.
Je ne suis pas l'agent de cette action. C'est un peu, genre, si on veut faire un truc un peu bateau, c'est un peu le truc de Spider-Man, quoi. Avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Avec plus de choix, on a plus de responsabilités, parce que c'est nous qui sommes en train de décider. Je t'avais donné toutes ces options, et tu t'es gouré. Alors que je te force à faire ça, bah, c'est pas toi. Mais c'est bien aussi d'avoir des choix, parce que en fait, c'est une sorte de juste équilibre, de juste milieu.
Oui, parce que c'est un privilège quand même d'avoir le choix. Oui, et en fait, c'est ça que je trouvais paradoxal un peu en creusant le sujet, c'est de me dire c'est un privilège immense d'avoir le choix. Et paradoxalement, j'ai l'impression que c'est une liberté qui peut nous emprisonner.
Je pense que c'est vraiment... C'est un peu comme, ça n'a rien à voir, mais je vais expliquer pourquoi, c'est un peu comme la sagesse des foules. C'est un humain n'est pas top. Quand on met plusieurs humains ensemble, ils deviennent vraiment bons. Et si on continue à rajouter des humains, leur prise de décision se détériore. Il y a une sorte de sweet spot.
Ah, c'est vrai ?
Oui, si on prend 100 personnes et les fait délibérer ensemble, ils sont moins bons que si on en prend 15, qui sont meilleurs que si on en prend 2. Donc c'est une sorte de ça s'améliore et puis ça se détériore. Je pense que c'est un peu la même chose avec les choix. C'est-à-dire, si j'ai aucun choix dans ma vie, je vais être relativement misérable. Et si j'ai tous les choix qui s'ouvrent à moi, je risque d'être dans la paralysie du choix. Après, évidemment, ça dépend aussi des choix.
Ouais, mais c'est pas... très inquiétant pour le vote, du coup.
Oui. Bah...
On n'est pas au sweet spot.
Oui, après, les votes, c'est un peu différent parce que c'est une agrégation. Les gens ne discutent pas ensemble.
Oui, dans c'est chacun dans son coin.
Oui, dans en fait, le vote, c'est comme si c'est... Oui, chacun décide seul, et on fait la moyenne, qui est moins bien d'avoir des petits groupes de 3, 4, 5, 6 personnes qui discutent entre elles et donnent une réponse par groupe et on fait la moyenne, qui est meilleur que si tout le monde parle ensemble et donne une seule réponse. Il y a toute une science, en fait, de la prise de décision collective, de comment ça marche. Et je pense qu'on peut rattacher ça aussi, dans certaines situations, au choix. Après, ça dépend de c'est quoi les choix, mais je pense que quand il y a vraiment des trucs importants, on va dire, si j'ai qu'un choix ou deux, bah, je vais être frustré, je suis contraint et personne n'a envie d'avoir ces choix tellement limités. Et si ça souffle de partout, bah, effectivement, ça peut être anxiogène, ça peut ouvrir la porte à des formes d'anxiété, de FOMO dont tu as parlé, de est-ce que, et de regret, de remords.
Et si on pouvait théoriser, entre guillemets, hein, la meilleure façon de prendre une décision, tu vois, est-ce que tu dirais que c'est de... Par exemple, si là, il y a quelqu'un qui nous écoute, qui veut se lancer dans la chanson, mais qui hésite pour plein de raisons, la meilleure façon de prendre sa décision, ce serait laquelle ? Et la pire façon de le faire, ce serait laquelle, selon la science ?
Alors, c'est de la psychologie, donc c'est pas hyper solide non plus.
Okay.
On a des sortes de petites bricoles. La première chose, on va commencer par les trucs qui marchent pas très bien, c'est le truc de faire deux colonnes, point positif, point négatif, tic, 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 tic.
Donc le rationnel.
Ça marche pas hyper bien. Ça peut être utile, mais c'est assez rare que ça marche. Une manière de faire des choix qui peut être... parfois utile, qu'on utilise parfois en psychologie, c'est de pas juste se concentrer sur ce qu'on a envie, mais de voir les points négatifs, entre guillemets, qui sont acceptables. Quelque part, de choisir ses problèmes. On a souvent tendance à penser juste le versant de « Ok, là, je vais avoir ci, là, je vais avoir ça. » Mais il y a aussi tout un set de choses, on appelle ça en anglais des « trade-off », je ne sais pas comment on traduit « trade-off », mais c'est les choses que je n'ai pas envie d'avoir, mais que je vais avoir de toute façon. Je sais pas, imagine que je veux me mettre en couple, et j'ai le choix entre deux personnes. Une personne est hyper sympa, bienveillante, mais je sais pas, avare. Et l'autre personne est hyper sympa, bienveillante, mais jalouse. Y a pas, on est dans un monde un peu hypothétique. On va imaginer qu'il n'y a pas de personne parfaite. Les personnes ont leurs problèmes, et je pense que c'est vrai. Je peux aussi réfléchir à quels sont les problèmes que je n'ai pas envie d'avoir, mais que, si je les ai, sont acceptables. des problèmes acceptables quelque part. Donc, est-ce que je supporte plus quelqu'un qui est avare ou est-ce que je supporte plus quelqu'un qui est jaloux ? Parce que je ne vais pas pouvoir changer la personne a priori. Donc, de choisir ses problèmes, c'est une bonne manière de penser la chose qui est un peu différente de... et c'est pas du tout genre les points positifs, les points négatifs. C'est pas une sorte de comparaison. C'est je vais devoir gérer ces choses. Quels sont les problèmes qui sont acceptables pour moi? Je sais pas, moi, par exemple, quand j'ai fini ma thèse, j'ai ma meilleure amie qui était dans le même labo que moi, et on savait pas qu'est-ce qu'on voulait faire après la thèse. Est-ce qu'on va dans un truc plus salarial, où on bosse de 9h à 17h, ou 18h, ou machin, mais on a un salaire, on a le chômage, etc. Ou est-ce qu'on fait un truc à notre compte, où on n'a pas cette sécurité, mais on a plus de flexibilité? Mais c'était vraiment un truc de problème, pas de truc positif. Les deux boulots étaient hyper intéressants. C'est juste que moi, je peux supporter le manque de stabilité financière pour avoir une flexibilité temporelle et ne pas devoir me réveiller tous les matins, etc. Alors que pour elle, se réveiller tous les matins et aller au bureau, c'est pas quelque chose qu'elle aime bien, mais c'est plus supportable que ne pas savoir que si, je sais pas, elle se casse la jambe, elle peut pas bosser, elle aura 0 euros parce qu'il n'y a pas de chômage, parce qu'il n'y a rien. Donc choisir ses problèmes. C'est un outil que je pense est assez intéressant. Après, c'est vraiment des sortes de conseils qui ne marchent pas tout le temps et tout.
Non, mais c'est vrai, j'en parlais dans mon dernier essai, c'est finalement se poser la question pas tellement de qu'est-ce que je veux faire, mais pourquoi est-ce que je suis prêt à souffrir ?
Oui, quelle est la souffrance acceptable ? Quelle souffrance est plus acceptable qu'une autre ? Parce que la souffrance qui est acceptable, c'est de moins voir ma famille, mais gagner, je sais pas, beaucoup d'argent et pouvoir le rapporter à un confort de vie, ou est-ce que la souffrance qui est acceptable, c'est devoir me limiter, pas pouvoir aller en vacances où je veux, mais les voir tous les jours.
Et si on veut maximiser ses chances de prendre ce qu'on appelle, entre gros guillemets, la bonne décision, de ce que tu disais, ce serait du coup de rassembler 5-6 personnes autour de soi et de prendre leur avis à tous pour arriver à une conclusion consensuelle.
C'est tout le temps mieux de prendre le conseil de gens qui nous connaissent et qui sont proches de nous. Tout le temps. Ça ne veut pas dire que je suis obligé de suivre, mais ils vont et elles vont probablement pouvoir me donner des éléments auxquels je n'ai peut-être pas moi pensé. Demander à des gens qui font ou qui ont vécu ce que je voudrais faire, le choix que je voudrais faire. Et surtout, accepter que je risque de me gourer. C'est-à-dire, je pense que le moment où on abandonne la notion de devoir prendre le bon choix, les choses deviennent plus faciles. Parce que pourquoi est-ce que ça fait tellement peur ? Ça fait tellement peur parce que souvent, on est persuadé que ce choix est définitif, alors que ça l'est rarement. Que ce choix va définir ma vie, alors que ça l'est rarement. Que une fois que je suis engagé, c'est fini, les autres portes se ferment pour toujours, ce qui est rarement le cas. Les choix qui changent toute une vie sont vraiment très rares et en même temps peuvent être communs, mais on ne le sait pas. C'est-à-dire, je ne sais pas, moi, si ce qui est en train de changer ma vie, c'est la discussion qu'on est en train d'avoir maintenant, si ça se trouve, quelqu'un va l'écouter, qui va m'appeler et ça va me changer toute ma vie. Ou est-ce que le choix qui a changé toute ma vie, c'est parce que j'ai raté une rame de métro aujourd'hui et si je ne l'avais pas raté, j'aurais pris le métro d'avant et en sortant de la station de métro, une voiture m'aurait écrasé et je serais mort. On peut pas savoir. Mais on peut pas vivre avec cette pression. C'est-à-dire, il y a aussi la pression. Quand on parle de choix, on est en train de se focaliser sur la question du choix, mais il y a aussi le contexte, l'état d'esprit dans lequel je suis, quand je suis en train de prendre ce choix. Et souvent, c'est là aussi que ça pêche. C'est-à-dire, j'ai une pression folle de devoir être parfait. On en a parlé aussi beaucoup, la dictature de la perfection, du bonheur, de la performance, tout ça. Alors qu'au final, c'est assez rare. Dans le monde aujourd'hui, si vous êtes quelqu'un qui est privilégié et qui a des choix, c'est assez rare que vous puissiez pas faire marche arrière, c'est assez rare que vous puissiez pas revenir sur vos pas, etc., etc. C'est-à-dire, il n'y a pas de manière de faire tout le temps les bons choix.
Ouais, mais je pense que le plus difficile, c'est vraiment de l'accepter. Personnellement, j'ai une tendance assez forte au regret et me dire tout le temps que j'aurais pu faire mieux ou que j'aurais dû faire mieux. Et même, tu vois, si je me dis rationnellement, c'est vrai, de temps en temps, t'es obligé de faire des conneries, t'es obligé de faire des bêtises, il n'y a pas mort d'homme et tout, ça peut prendre vraiment des jours.
Ouais, mais parce que je pense, j'irai plus loin, je pense que même si, on peut imaginer qu'en 2024, je sais pas, je suis un être omniscient, comme Dieu, et je viens et je te dis, Louise, je suis comme Dieu, j'ai fait une évaluation de ta vie, et à chaque fois que tu avais un choix, tu as pris le meilleur choix possible, je pense que ça n'enlèverait pas cette sensation que tu as, que tu aurais pu faire mieux. C'est-à-dire, il y a aussi le tempérament des personnes. Mmh. Et il faut directement agir sur le tempérament. Parce que de toute façon, tu ne sais pas qu'est-ce qui serait passé si tu avais fait l'autre choix.
Ouais.
Donc, c'est plus une histoire que tu es en train de te raconter, qui souvent est proche de l'anxiété. Les regrets, c'est quand même assez proche de l'anxiété. Et je pense que, encore une fois, si je pouvais te dire, en fait, à chaque choix, du plus petit choix au plus grand choix que tu as fait en 2024, à chaque fois, c'était genre best guess. C'est tout le temps la réponse optimale. Je pense que tu aurais une manière de quand même te persuader que ah bah, je ne suis pas vraiment sûr. Et je pense que le problème vient surtout de là.
Le problème vient de toi. Sous-entendu.
Pas de toi, de cette pression qu'on a aujourd'hui, oui, de chercher tout le temps cette meilleure, cette solution optimale, ouais. Cette meilleure version, etc., etc., ouais. Alors que elle n'existe pas. C'est-à-dire l'incertitude. Je pense que l'incertitude est vraiment un pilier central de notre fonctionnement. Après, je suis biaisé, je travaille sur la prise de décision en situation d'incertitude, mais c'est quand même un pilier assez important. Et tant qu'on n'a pas accepté notre rapport à l'incertitude, on peut faire les meilleurs choix au monde. On va tout le temps se dire, oui, mais et si, oui, mais ça, oui, mais... Mais c'est pas lié au réel.
Tu travailles en ce moment sur la prise de décision
depuis
en situation...
Toujours. Depuis toujours. L'incertitude, c'est vraiment le fil conducteur de, depuis mon master jusqu'à aujourd'hui.
Qu'est-ce qui t'a le plus surpris comme apprentissage ?
D'accepter l'incertitude. J'ai fait ma thèse sur les troubles anxieux. Et souvent, quand on est face à quelqu'un d'anxieux, donc tu viens me voir, disant que tu es anxieuse, et tu me dis « Albert, je suis très anxieuse, j'ai peur d'avoir fait le mauvais choix », on a tendance à vouloir rassurer la personne. Dire « Mais non, Louise, regarde où tu es, ça marche hyper bien, ton business est dingue, tu l'as monté toute seule, c'est incroyable, etc. etc. » Et ça marche pas. Ça marche pas de dire à quelqu'un de stressé « Ça va, t'inquiète pas, ça va bien se passer ». Souvent, au contraire, ça empire les choses. Et ce que j'ai réalisé, c'est pas moi qui l'ai découvert, hein, ce que j'ai appris en faisant mes études et ma thèse sur les troubles anxieux, c'est que réhabiliter l'incertitude, ça marche beaucoup mieux. De dire « Bah, tu sais quoi ? Oui, peut-être que tu aurais pu faire mieux. Mais on sait pas. Toi, tu es en train de dire « J'aurais pu faire mieux ». Moi, je viens, si je suis la personne rassurante, te dire non, tu as très très bien fait. Mais en réalité, ni moi, ni toi, on sait. Parce qu'on n'a pas accès à l'autre scénario où tu aurais fait différemment. L'autre scénario, personne n'y a accès. C'est pas possible. Et donc, réhabiliter l'incertitude, dire à une personne anxieuse, en fait, on ne sait pas, paradoxalement, ça peut rassurer. Quelqu'un, je sais pas, j'avais mon neveu, ma sœur va pas être contente, mais c'est pas grave. J'avais mon neveu qui passait le bac il y a quelques années, et il est assez anxieux, et ma sœur est assez anxieuse aussi. Et elle me dit, ah, mon fils, il a trop peur de rater le bac et tout. Et je lui dis, et toi, tu lui dis quoi ? Elle dit, bah, moi, je lui dis que ça allait bien se passer. Je lui dis, mais comment tu sais ? Alors, si ça se trouve, il va rater le bac. Pourquoi est-ce que tu lui dis que ça va bien se passer ? Donc, je lui dis, donne-moi, file-le-moi. Elle me donne le téléphone. Je lui dis, ouais, qu'est-ce qui se passe ? Ah, j'ai le bac, j'ai une boule au ventre, j'ai peur de rater, qu'est-ce que je vais faire ? Mes parents vont être trop déçus et tout. Je lui dis, écoute, si ça se trouve, tu vas rater. J'en sais rien. Mais toi, ton cerveau est en train de dire que tu vas rater, et on ne sait pas. Ta mère est en train de dire que non, tu vas réussir, mais elle ne sait pas non plus. C'est incertain pour le moment. Fais, attends le retour du réel, et après, on décide. Si une fois que tu fais, tu rates, on va devoir gérer la merde. C'est pas agréable. Je suis pas du tout le mec qui dit « Ah, c'est bien l'échec et tout ». Non, l'échec, c'est pourri, mais ça arrive. Quand ça arrive, on va devoir le gérer. Mais si tu fais et tu réussis, tu te serais évité cette fausse certitude et cette souffrance pendant tout ce temps. Ça veut pas dire qu'il m'a dit « Oui, d'accord, il est plutôt anxieux ». Mais ça marche mieux que de rassurer. Et donc, je pense que ça vient vraiment de là, de se dire « De toute façon, il n'y a qu'une seule manière de savoir, la grande égalisatrice, c'est le réel ». Je fais, je vois le retour, et je réagis.
Ça, c'est le biais des regrets. Il y a un biais également qui est un peu celui de se demander si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est tellement exposé,
ouais.
Tellement... Enfin, en fait, ouais. On est au courant, il y a une ère de... une espèce de hausse de possibilités de choix, mais aussi une hausse d'accès à l'information, des choix que les autres font. Et ça, est-ce que notre cerveau, finalement, il a été fait pour, finalement, devoir encaisser autant d'informations et se poser autant de questions ?
Je ne sais pas pourquoi notre cerveau a été fait, c'est difficile de donner de l'intentionnalité, mais ce qui est sûr, c'est que d'un côté, on a l'incertitude qu'on a traitée, et un autre pilier assez important dans notre fonctionnement, c'est la comparaison. Notre cerveau est un organe prédictif, automatique, dirigé vers l'action, mais il est aussi comparatif. C'est comme ça aussi qu'on voit les couleurs. On a plein d'illusions d'optique, par exemple. Je suis sûr que tu en as déjà vu, où tu as une couleur entourée d'autres couleurs, et la même couleur entourée d'autres couleurs, et les deux couleurs qui sont la même couleur apparaissent très différentes l'une de l'autre. Notre cerveau est un organe comparatif. Et donc, mécaniquement, quand j'ai accès à plein d'autres réalités, ben, j'ai accès à plein d'autres comparaisons. Et souvent, ces comparaisons, aujourd'hui, on a quand même pas mal de données, par exemple, sur la santé mentale des jeunes adolescentes qui passent leur temps sur les réseaux sociaux. Je pense que tu sais mieux que tout le monde combien les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Mais moi, j'ai pas accès au reste de leur vie. Donc moi, je vois ça, mon cerveau compare ce que je suis en train de voir, une sorte de biais de sélection énorme, à ma vie, où il se passe pas autant de choses, donc je me sens comme de la merde. Et ça me casse. Donc, ce n'est pas la multiplication de l'information que je pense est difficile avec notre cerveau, c'est cette comparaison permanente d'une réalité qui n'existe pas, qu'on projette et qu'on compare à une réalité qu'on connaît très bien, qui est la nôtre, et qui est mécaniquement moins fascinante. Et ça, on a aujourd'hui, encore une fois, des tonnes de données, des problèmes que ça cause, notamment sur les réseaux sociaux. En tout cas, les études ont été faites souvent sur des adolescents. Mais je pense qu'on pourrait retrouver les mêmes choses dans des situations aussi d'adultes, etc., etc., etc. Surtout que dans beaucoup de ces comparaisons, on sent aussi qu'il y a une forme d'injustice. C'est-à-dire, on va voir des gens qui vivent des vies de rêve. Souvent, on va se dire, ils font même pas beaucoup d'efforts, alors que nous, on est en train de charbonner du matin au soir. Et on a du mal à arrondir les fins de mois. Donc, ça crée aussi un sentiment d'injustice, de ressentiment, plein d'émotions négatives qui viennent avec. Mais c'est plutôt ce fonctionnement comparatif. Et est-ce que l'herbe est tout le temps plus verte ailleurs ? Si ailleurs, c'est une réalité qui n'existe pas, qui est faite pour être idyllique, oui, l'herbe sera toujours meilleure ailleurs, parce que cet ailleurs n'existe pas, et l'herbe est inventée pour qu'elle soit l'herbe la plus verte possible et imaginaire.
Mais cette herbe, finalement, c'est vrai que c'est notre construction de l'esprit. Tu vois, si je pense par rapport à quelqu'un qui serait en couple et qui se ferait draguer par quelqu'un d'autre et se demanderait est-ce que je serais pas plus heureuse avec lui ? Ouais. C'est finalement comment éviter que nos projections mentales influent trop notre processus de décision ? Parce qu'en effet, c'est totalement hypothétique.
Je pense déjà, la première étape à faire, c'est de réaliser que je suis en train de comparer quelque chose que je connais à quelque chose que j'invente. C'est-à-dire, je suis en couple avec ma partenaire depuis longtemps, je rencontre une nouvelle personne, et au bout de 3-4 heures, je suis complètement épris de cette personne. Waouh, elle est incroyable, machin, machin. Et donc, je la compare à ma copine. Sauf qu'en fait, je ne suis pas en train de la comparer, elle, à ma copine. Je suis en train de comparer une image que j'ai inventée d'elle. Et peut-être qu'elle a un caractère de merde, qu'elle est une personne horrible, etc., etc. C'est juste que pendant ces 3-4 heures, je ne vais pas voir toute cette facette. Alors que ma partenaire, je suis avec elle depuis plus d'une décennie, et on se connaît surtout dans nos tares. Et donc, ça crée une sorte de comparaison fallacieuse. Mmh. Donc, la première chose, c'est de réaliser que je ne suis pas en train de comparer deux choses...
Comparables.
Je suis en train de comparer une personne réelle et une personne inexistante que j'ai créée et que j'ai projetée sur une personne réelle. La deuxième chose, c'est pourquoi pas, si quelqu'un a envie de quitter son couple parce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre qui semble être super pour elle, why not, j'ai envie de dire. Le but, c'est pas que tout le monde reste dans son couple tout le temps. Je suis pas une agence matrimoniale.
Pas encore. Donc,
si les gens veulent se larguer, qu'ils se larguent. Mais après, s'ils veulent faire ça, on revient à la théorie des trade-offs, c'est-à-dire d'accepter que j'ai quitté ce truc pour aller à un autre truc. Et si cet autre truc est pire, d'accepter que si on veut jouer, on peut gagner, on peut perdre. Moi, le conseil que je donne à des personnes qui viennent en thérapie avec ces problématiques, c'est de leur dire, et c'est pas facile à faire, c'est de comparer, on appelle ça en intra, pas en inter, c'est-à-dire, est-ce que je suis bien dans mon couple, indépendamment de ce qui existe d'autre ? Et si la question est oui, je me satisfais de ça, et je suis bien. Si la question est non, je devrais partir, même s'il n'y a pas une autre personne. C'est d'essayer d'évaluer les choses dans leur contexte, sans se poser la question d'autres contextes, sauf dans des situations où c'est obligatoire. Je suis dans un boulot et une autre boîte vient me chercher et me dit « on aime beaucoup ton profil, on veut te faire une proposition ». Dans ce cas-là, oui, effectivement, ça doit être comparable. Mais quand on parle de ces difficultés de questions, c'est souvent nous qui sommes à l'initiative du changement, plutôt que quelqu'un vient et me dit « voilà, je te mets un choix dans ta boîte mail, décide ».
Pourquoi est-ce qu'on hiérarchise certains choix de vie par rapport à d'autres et qui mènent à une pression qui nous pousse à parfois avoir le sentiment qu'on est en retard sur notre vie. Donc, je pense notamment au mariage, aux enfants, à l'accès à la propriété. C'est comme si on perdait en valeur si on n'accomplissait pas ses choix avant un certain âge.
C'est des normes sociales. Et je pense que déjà, c'est en train de changer énormément. Mais pendant longtemps, sur les 50, 60 dernières années, on va dire, c'était un chemin tracé. C'est-à-dire, on a tous une sorte de feuille de route créée dans la société, de voilà qu'est-ce qui devrait se passer. Et les sujets que tu mentionnes sont des sujets assez... qui traversent un peu une culture entière, mais on peut retrouver ces mêmes mécanismes parfois au sein de certaines familles. C'est-à-dire, dans notre famille, on est médecin. Donc, tu vas faire école de médecine. Parce que c'est comme ça. Ton arrière-grand-père était médecin, ton grand-père était médecin, ton père est médecin, et tu vas être médecin. Donc, on retrouve souvent ces pressions. Parce que, quand on fait des choix, encore une fois, notre cerveau est comparatif. Et souvent, on est des animaux sociaux, on se compare les uns les autres. Donc si moi, je vois tous mes potes autour de moi qui commencent à avoir des enfants, je vais sentir que ça va pas, ou bien je vais faire un travail intérieur de me dire « Ok, je comprends, mais ça, c'est pas pour moi ». Certaines personnes y arrivent très bien, de ni s'intéresser à avoir des enfants, ni être en couple, ni avoir accès à la propriété, etc. Mais je dirais que la pression aujourd'hui est moins forte qu'il y a 30-40 ans. Je pense que c'est même incomparable. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, à cause de ces différents choix, de trouver des groupes sociaux qui sont comme moi. Je sais pas, imagine que moi, je suis dans une société où tout le monde se marie à 25 ans, à 30 ans, ils ont des enfants, 32 ans, ils ont acheté un appart, etc., etc., etc. Si c'était il y a 30-40 ans, et c'est moi qui n'ai pas fait ça, effectivement, je sors du lot, et quand on sort du lot, on est des animaux sociaux, parfois ça peut être difficile, compliqué, etc. La souffrance va être assez importante, je pense. Alors qu'aujourd'hui, si la même situation se passe, je peux aller sur Internet, taper « j'ai pas envie d'avoir d'enfants », trouver un groupe, trouver une communauté, faire une page Instagram qui revendique de ne pas vouloir avoir d'enfants, créer des gens, et où je retrouve une sorte de consonance. Parce que le but, c'est d'éviter un peu cette dissonance cognitive. Et la dissonance cognitive, c'est tout le monde fait ça et moi pas, je suis en tension, comment je vais résoudre cette tension? Quand on a une dissonance cognitive, on a trois portes de sortie. Soit je change mon comportement, donc je commence à faire comme les autres, je me marie, j'ai des enfants, j'achète une maison. Soit je change le sens, donc je me dis, oui, tout le monde le fait, mais moi, je vais les aider avec leurs enfants, etc. Soit je change l'idée, c'est-à-dire je me dis, oui, bon, eux, ils veulent faire ça, mais nous... On ne veut pas et on le revendique. On pense même que c'est un peu loser de « tu es marié, tu as eu des enfants, c'est presque ringard ». Il y a quelques décennies, ou un peu moins, la troisième porte n'était pas possible. Où est-ce que je vais aller trouver des gens qui se revendiquent de ne pas vouloir avoir d'enfants? Donc la tension était assez forte de soit je suis, soit je change le sens que je donne, et je me dis, oui, c'est vrai, ça n'a pas marché, mais c'est pas grave, mais ça reste une sorte de blessure quelque part parfois, où je me dis, oui, je vais m'occuper d'autre chose. Aujourd'hui, avec la multiplication des choix, bah, il y a une sorte de rationalisation qui s'ouvre à tout le monde, qui peut même être revendiquée.
Et est-ce qu'il y a des études sur l'épanouissement des jeunes, enfin, tu vois, si on prend la tranche d'adolescents, genre 18-28 ans, parce que j'ai le sentiment que, pour les privilégiés face à ce champ des possibles, c'est beaucoup plus difficile de trouver sa voie, d'être sûr de soi, de s'épanouir, par rapport peut-être aux précédentes générations qui finalement... Et c'est ça que je trouve parfois un peu paradoxal avec le choix, c'est que, est-ce qu'on peut vraiment manquer ce qu'on ne connaît même pas? Mais sauf qu'aujourd'hui, comme on connaît, on voit, on sait... c'est, j'ai l'impression, beaucoup plus difficile d'accepter, finalement, de choisir une voie.
Parce qu'on ne voit pas, on ne sait pas. On voit des bribes et on idéalise le reste. Moi, quand j'étais plus jeune, tout le monde voulait être DJ. C'était vraiment la vague DJ. Mmh. Après la vague DJ, je ne sais pas si c'était quand même la même chose en France, mais au Liban, on a vraiment eu une vague. Tout le monde voulait être dans un groupe de musique. Tous mes potes, d'un coup, sont devenus DJ, puis tous mes potes sont devenus photographes, comme ça, du jour au lendemain. Et... Parce qu'il ne savait pas c'était quoi ce métier. Il voyait quelqu'un qui est dans un club, qui a plein de gens autour de lui ou d'elle, qui s'intéressent, machin, machin. Mais s'ils essayaient, c'était une vie de merde. Mais on ne le sait pas. Donc on n'est pas en train de comparer à quelque chose qu'on sait. On est en train de comparer à quelque chose qu'on croit savoir, mais on est en train d'idéaliser, souvent parce qu'on n'est pas satisfait. Parce que, et ça c'est des cultures et des époques, aujourd'hui je pense que on met une énorme pression sur c'est quoi la vie. Comme si la vie, c'est un truc de dingue tout le temps. alors que ça l'est pas, et ça l'a jamais été quasiment pour personne, je pense, depuis le premier Homo sapiens ou la première Homo sapiens sur Terre. Mais aujourd'hui, on a ce truc de déception. Les gens arrivent à l'âge adulte et se disent, mais en fait, c'est ça. C'est de la merde, votre truc.
Remboursé.
Ouais, c'est genre remboursé, c'est de la merde, votre truc. Je pense qu'il n'y avait pas cette attente autant qu'avant, mais je pense que les générations d'avant aussi avaient leurs inquiétudes, leurs crises, leurs machins, mais on revient au glacier. Il y avait moins de parfums. Donc.
Ouais, c'est ça, parce que j'ai
l'impression. Et puis les conditions étaient meilleures, on ne va pas se mentir. C'est-à-dire, je regardais les chiffres aux États-Unis, la génération des parents des Américains jeunes aujourd'hui, ils pouvaient acheter un appart avec 10 mois de salaire. 10 mois de salaire, tu achètes une maison. Et une maison aux États-Unis, ce n'est pas un appart de 40 mètres carrés à Paris. C'est vraiment une maison avec le backyard, le porch, la totale. Là, un Américain qui veut acheter une maison, je pense que c'était plus quoi les chiffres, mais c'est des années et des années et des années de salaire, donc une dette, machin, machin. Donc aussi, il y a une dégradation des conditions matérielles de vie. Et donc, c'est pas juste. Parce que souvent, quand on parle de ces problèmes, on fait genre, oui, la génération d'aujourd'hui, elle se plaint, elle est pas contente. C'est pas vrai aussi, la vie aujourd'hui est plus complexe. C'est même pas qu'elle est plus complexe, elle est différemment complexe qu'avant. Peut-être qu'avant, ils avaient leur complexité de est-ce qu'ils vont avoir une bombe atomique qui va leur tomber sur la gueule ? Est-ce que l'Union soviétique et les Américains vont décider de péter un plomb ? Ce genre de problématiques. Mais dans leur vie personnelle, la rémunération était relativement bonne pour les classes moyennes. On peut avoir accès à l'emploi, on peut avoir accès à un appart, etc. J'étais en train de voir, en France, 30 ou 40% des propriétaires sont multipropriétaires. Et la majorité de ces multipropriétaires, ils n'ont pas acheté leurs apparts sur les 5 dernières années. Hein. C'est à l'époque où, avec 2 ans de salaire, on rembourse tout un prêt immobilier. Donc, il y a aussi la réalité qui est différemment complexe et qui, je pense, joue beaucoup dans ce sentiment de
pression.
De pression et de comment est-ce que je vais m'en sortir.
Si demain, ton neveu, qui, j'espère, a eu son bac...
Il a eu son bac, il est à la fac. Et wow. Là, tout d'un coup, il a de très bonnes notes.
Chambé. Mais si jamais il venait te voir... Et il te disait, tonton, j'ai l'impression que je suis en retard sur ma vie.
Ouais.
Tu le dirais quoi ?
Je dirais en retard. Déjà, le mot en retard est comparatif à quelque chose. Donc, si je dis, j'ai un rendez-vous à 16h, je peux être en retard si j'arrive à 16h30. Quand on dit on est en retard à sa vie, c'était quoi le bon horaire ?
C'était quoi l'horaire auquel j'étais attendu ?
C'était quoi l'horaire auquel j'étais attendu ? Parce qu'il faut souvent, on appelle ça parfois des phrases pseudo-profondes. C'est comme si la question est vraiment profonde, mais au final, quand on y pense. En fait, elle ne tient pas du tout debout. Donc, quand il va me dire « je suis en retard sur ma vie », je dis « c'était quelle heure que tu étais supposé être où ?» Et moi, je pense que c'est juste pas possible. On n'a que le temps qui avance d'une manière pour tout le monde. On peut avoir des loupés, on peut avoir des ratés, mais... Et peut-être j'en parle parce que c'est un peu mon histoire personnelle. C'est-à-dire, moi, j'ai quasiment presque raté mon bac et j'étais paumé... Il y a eu une année entière où je disais à mes parents que j'allais à la fac, mais en fait, j'allais au boulot. Je travaillais en sécurité informatique, de réseau informatique. J'étais un peu geek, machin. Donc, j'ai un pote qui a ouvert une boîte. Il me dit, viens bosser avec moi. Je dis, OK. Je dis à mes parents que j'étais en train de faire des études de médecine, alors que c'était du mytho. Mon père a su. Donc, il m'a dit, tu vas repartir à la fac. Je suis allé relais à la fac pour faire de l'informatique, mais j'étais nul en maths. Donc, je faisais pas ça. J'ai pris des cours de poterie et de dessin, etc. Et évidemment, tout le monde me disait, tu es en train de rater ta vie. Tu as presque 22 ans. Il y a des gens qui ont déjà leur licence, tes potes de bac ont déjà leur licence, et toi, tu es en train de zoner là à faire tes cours de poterie et de pet science, comment s'occuper des animaux de compagnie. Donc c'était vraiment de la folie. Mais, quelque part, je ne savais pas qu'est-ce que je voulais faire. Donc comment est-ce que je vais résoudre le problème ? C'était irrésolvable. J'ai eu de la chance qu'au final, je m'en suis relativement bien sorti.
Attends, comment on passe de cours d'animaux de compagnie à une thèse en neurosciences ?
En fait, j'ai fait ma licence dans l'université américaine de Beyrouth, où dans le système américain, on peut prendre des matières dans un peu partout. Donc, dans mon errance académique, à un moment, j'ai pris un cours de psycho. Et tout d'un coup, j'avais de super bonnes notes. Je me suis dit, tu vas pas faire de chichi. Tes parents veulent que tu aies un diplôme. Tu vas faire de la psycho et après, tu vas repartir bosser en informatique. Mais j'ai vraiment aimé la psycho quand j'ai fait ça pendant 3-4 ans. Et quand je suis venu en France, mon directeur de stage m'a dit, tu sais quoi ? Tu as plein de casquettes, tu es bon en informatique, tu as fait un doc de bio, parce que je devais faire médecine, donc j'avais pris des cours de bio, tu as de la psycho, il y a des neurosciences. Tu ne veux pas essayer de faire ça ? Je dis, allez. Et donc, j'ai fait une thèse de neurosciences. Mais j'aurais pu très bien rester paumé et ne pas arriver nulle part. Mais de toute façon, on a une seule vie. La question, ce n'est pas comment est-ce que j'ai loupé ma vie ? C'est-à-dire, si on revient à ta question, si mon neveu vient et me dit « Écoute, je suis en retard à ma vie », même si ça ne veut rien dire, la question que je vais lui dire, une fois que je lui ai expliqué, ça ne veut rien dire, c'est « Ok, comment est-ce qu'on rattrape le retard ? Qu'est-ce que je vais faire ? Pas « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Ce que j'ai fait, ok, je l'ai fait. Pas de chance, parfois on est en retard sur notre vie. Et parfois, peut-être qu'on est en avance sur notre vie. La question, c'est qu'est-ce que je vais faire ? Donc, je vais lui dire, ok, tu es en retard sur ta vie. Une fois que je lui ai expliqué, ça ne veut rien dire, mais ça ne va pas le persuader. Il a un sentiment subjectif qu'il faut quelque part aussi écouter. Il a une souffrance. Il sent qu'il est en retard sur sa vie. Une fois qu'on a posé ce constat, comment est-ce qu'on va faire pour que tu rattrapes ce retard ? Ou bien, quelles sont les conséquences de ce retard ? C'est pas grave. C'est pas grave d'être en retard.
Avant de passer à la petite interro-surprise, Albert, vu que nous sommes en cours, nous sommes en classe,
ouais.
J'ai envie de te poser la question signature d'adolescence. Ça signifie quoi pour toi être un adulte ? Pour toi,
ça
Albert
très, ça va être très paradoxal avec tout ce qu'on a dit, mais je pense être adulte, c'est quand on commence à avoir un choix. Et du coup, quand on commence à pouvoir merder. C'est tout. Moi, pour moi, j'ai senti que j'étais adulte, mais je pense que j'ai été adolescent pendant longtemps, parce que la réponse va être très absurde. Mais je vais la dire, et je vais regretter de la dire, c'est quand je suis allé dans une arcade, et je pouvais acheter autant de coins que je voulais, et que je n'avais pas besoin de dire à mes parents, est-ce que je peux faire encore un tour ? Je suis allé à la tête dans les nuages, je me souviens très bien, et j'ai cramé ma carte bleue pour 25 ans de frustration, où je devais mendier des pièces pour jouer. Mais je pense qu'on est adulte quand on commence à pouvoir faire ses choix et assumer ses conneries.
J'adore. Petite inter-surprise.
Allez.
Le cerveau termine de se développer à 25 ans.
Non et oui. Mais il continue à se développer, mais pas de la même manière.
Notre cerveau est programmé pour prendre la décision la plus rationnelle dans une situation donnée.
Absolument pas. Du tout.
Ceux qui savent précisément ce qu'ils veulent n'ont pas de problème de choix.
Absolument pas.
On peut apprendre à prendre de meilleures décisions.
Oui. Oui. Oui et non, vite fait. On peut apprendre à faire de meilleures décisions dans une situation particulière. Mais c'est pas genre, on peut apprendre à faire de meilleures décisions dans notre vie en général.
Le FOMO, donc Fear of Missing Out, est un phénomène récent.
Je pense pas qu'il soit récent, mais je pense qu'il est plus commun aujourd'hui. Peut-être Cicéron, il avait un FOMO sur, je sais pas, quelque chose.
T'es pas invité au...
Ouais, voilà, il t'est pas invité à l'assassinat, c'est ça.
Faire des erreurs est indispensable pour apprendre à choisir.
Faire des erreurs est indispensable, point.
Tout court.
Tout court. C'est même si on apprend à choisir, il y a une constante, on va faire des erreurs, et c'est pas une bonne chose, et ce serait souhaitable que ça soit évitable, mais c'est pas possible. De la même manière que je peux pas sauter du 5e étage, parce que je me casse les jambes, je peux pas ne pas faire d'erreurs.
Tu meurs, en fait, même.
Oui, je meurs potentiellement.
Reste en vie, Albert, s'il te plaît.
Je vais essayer. Mais on ne peut pas ne pas faire d'erreurs. Et ce n'est pas une bonne chose de faire des erreurs. Il ne faut pas glorifier les erreurs. C'est nul, c'est de la merde, mais c'est comme ça. C'est une sorte de règle du jeu.
On est naturellement averse à l'incertitude.
On est naturellement averse à l'incertitude.
Je vais poser une colle.
Ouais, là, c'est une colle. Non, pas vraiment. Mais en tout cas, l'incertitude est un grand modulateur de nos raisonnements et de notre cognition.
Et enfin, plus on sait de choses, plus il devient facile de choisir.
Absolument pas. Ça dépend. Il y a deux écoles de pensée. Une école de pensée qui considère que plus d'informations, c'est de meilleures décisions. Et une autre qui est une sorte de prise de décision par la frugalité. C'est un chercheur qui s'appelle Gerd Gigerenzer qui défend beaucoup ça et qui dit que plein de fois, plus d'informations, ça noie le poisson. Et ça perd du temps et ça paralyse encore plus. Et parfois, il faut juste savoir, boum, je prends la décision et je trace.
Trois petites questions pour terminer.
Allez.
Trois questions des élèves. Il y a Marley qui nous demande, j'aime beaucoup cette question, que faire des mecs adultes qui ne veulent jamais quitter l'adolescence ?
Ne pas se mettre en couple avec eux.
Dump him.
Les responsabiliser, quoi. Qu'ils se responsabilisent tout seuls.
Mais c'est vrai qu'il y en a qui... C'est trop inconfortable d'assumer ces conneries, comme tu disais juste avant. Ouais.
Bah, c'est leur problème.
Ça ne doit pas être le tien.
Parce que comment est-ce qu'ils vont devenir adultes s'ils ne sont pas à faire le choix et gérer la merde qui vient avec ?
Isabelle nous demande, pourquoi le fait d'accomplir des choses en étant jeune est beaucoup plus valorisé ?
Est-ce que c'est beaucoup plus valorisé ? Je pense qu'au contraire, plein de fois, il y a ce qu'on appelle le jeunisme, qui est une forme de discrimination. ou parce qu'une personne jeune accomplit plein de choses, on la regarde presque avec un mauvais œil.
Enfin, tu vois, il y a le 30 under 30 de Forbes, il n'y a pas le 60 above, quoi.
Non, parce qu'après, c'est des classements de milliards.
Ouais, certes.
On passe à un autre classement.
Non, mais c'est vrai qu'il y a vachement ce truc de ce jeune ingénieur à 21 ans.
Ça fait impressionnant. Mais encore une fois, c'est vraiment un truc de notre époque. Évidemment, il y a des prodiges parce que ça sort du lot. Mozart ou un pianiste de dingue à 6-7 ans, OK. Donc évidemment, si on a quelqu'un qui est ingénieur en physique quantique à 22 ans, je pense qu'on valorise juste parce que ça sort du lot. Mmh. C'est tout, c'est un truc. Mais il y a d'autres époques où avoir tout fait à 21, 22 ans, c'est tout le monde fait ça, genre c'est quoi ton délire?
Ouais, ouais. C'est aussi le storytelling, quoi. Enfin, c'est l'histoire qu'on se raconte.
Et c'est aussi le changement des milestones selon l'âge. C'est juste qu'aujourd'hui, on est surpris si quelqu'un est millionnaire à 22 ans, parce qu'à 22 ans, en général, on est au cuic à 4 heures du matin.
Tu parles pour des amis, bien sûr, c'était pas toi. Ouais.
Enfin, moi, du tout.
Et une dernière question d'Alice, très concrète, et qui, je pense, concerne, en tout cas, beaucoup de mes amis. Elle nous dit « J'ai 35 ans, je n'ai pas d'enfant. Comment me dire que je ne suis pas en retard ?»
Est-ce qu'elle veut des enfants, Alice ?
Je pense, sinon elle n'aurait pas posé la question. Fais un bébé toute seule ?
Non, j'ai envie de lui dire, et si tu étais en retard, c'est quoi le problème ? Genre, c'était quoi l'option de faire à 30 ans un bébé avec quelqu'un où ça va merder après ? En fait, ok, tu es en retard, Alice, et...
Et alors ?
C'est un truc désagréable, mais moi je suis de ceux, et je pense que tu le sais maintenant, qui ne pense pas qu'il faut essayer d'éviter les émotions désagréables tout le temps. Genre, si tu le sens, c'est nul pour toi, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?
On devrait faire un mème de toi en train de dire qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?
Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Genre, tu as 35 ans et tu n'as toujours pas d'enfant et tu as envie d'avoir des enfants et il y a une réalité biologique que c'est plus difficile à 40 ans de faire un enfant qu'à 25, mais c'est la situation dans laquelle tu es. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Est-ce que tu veux congeler tes ovocytes ? Est-ce que tu veux faire un enfant toute seule ? Est-ce que tu veux trouver quelqu'un qui pense aussi qu'il est en retard, qui voudrait faire un enfant avec toi, et après de gérer ça, je sais pas, comme un projet, je sais pas.
Un projet amical.
Voilà, un projet amical. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Et surtout, bah oui, c'est... Parfois, on est en retard sur plein de choses. Mais... Et c'est nul, hein ? Mais ça, ça va pas changer la situation, si je m'en veux.
Merci Albert.
Merci Louise.
C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi.
Merci beaucoup.
Et je te dis à très bientôt.
À bientôt.
Adolescence est un podcast original de France Inter.